C'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Evelyne au 39-21. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Olivier.
D'où nous appelez-vous Evelyne et quel âge avez-vous ?
Alors, je vous appelle du Périgord, du nord du Périgord, de Terrasson-Lavilledieu, en Dordogne, et j'ai 59 ans.
Très bien.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous amène, ma chère Evelyne ?
Ben, je me suis dit, que ce serait peut-être une bonne idée, en ces temps difficiles, de donner mon témoignage, un témoignage d'espoir. Je vais pas raconter ma vie toute la nuit, hein, je vais essayer de faire court. Je suis très intimidée, hein, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Parce que je crois que les gens ont beaucoup besoin d'espoir, de lumière, et de voir un petit peu la fin de tout ça. Alors voilà, alors essayez de m'encourager Olivier, parce que c'est pas évident de parler comme ça, toute seule.
Non mais vous débrouillez très bien, je sens que vous avez déjà la science infuse pour parler comme ça. Donc,
Bon, j'ai déjà fait quelques vidéos, alors j'ai un peu travaillé sur ma timidité. Alors je commencerai par ça. J'étais fille unique, je vivais à Bordeaux, je suis bordelaise. Et je vivais dans un écrin familial où je ne pouvais absolument pas sortir. Mes parents avaient très peur de tout. Donc j'ai envie de dire, je vivais confinée, entre guillemets. C'est peut-être pas le mot à dire en ce moment, mais c'était vrai. Et pour moi, toute mon enfance, ça a été un enfermement. Ça a été l'école, c'était un supplice. La récréation, je savais pas du tout comment faire avec les autres. Dès qu'on m'adressait la parole, j'étais pétrifiée. Je pouvais pas dire deux mots à la queue leu leu. Vous voyez, j'ai fait des progrès quand même.
Oui, je vous confirme.
Et voilà, personne ne m'écoutait, personne ne me faisait de câlins, personne n'essayait de me comprendre. Et à chaque fois que j'osais ouvrir la bouche, bah, c'était ma faute, c'était pas la peine, c'était moi qui étais en tort, c'était les autres qui avaient raison. Bref, j'étais écoutée par personne, j'étais rabaissée par tout le monde, mes parents en premier. Hein. Et en étant fille unique, franchement, c'est pas facile. Voilà, et mon seul échappatoire, c'était la télé. Je rêvais devant la télé et je me faisais des films et j'écrivais des poèmes, je dessinais. J'étais dans mon univers et c'est ça qui m'a sauvée. Et puis, quand je vais vraiment essayer de faire résumer, hein, quand à 13 ans, ça a commencé, je me suis dit, je peux plus rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai redoublé ma sixième. Et là, je me suis dit, personne ne me connaît. Il faut absolument que je change d'attitude pour plus rester dans cette timidité. Et j'ai dit, je vais faire rire les gens. Parce qu'en faisant rire les gens, ça leur donne de l'importance. Et puis moi, j'existe un peu. Et puis, il y avait aussi le dessin. Alors, j'ai trouvé une copine de classe qui était passionnée par le dessin. Donc, je me suis fait ma première copine. Ça a commencé comme ça, cette prise de conscience qu'il fallait changer quelque chose en moi parce que ça n'allait pas, parce que je pouvais pas continuer à vivre comme ça. Et puis, j'ai beaucoup lu, j'ai toujours beaucoup lu, je me suis toujours posé des questions sur tout. C'est pour ça que je ne savais pas jouer avec les autres, j'étais pas habituée, mais en plus, j'avais des préoccupations que les autres n'avaient pas. Du genre, pourquoi on est sur Terre? Quel est le sens de notre vie? Pourquoi on réagit comme ça? Pourquoi on est émotionnel? Comment on fonctionne en fait? Alors je suis encore très romantique, donc je lisais aussi beaucoup de romans. Je me demandais ce que c'était que l'amour, puisque personne de toute façon me donnait d'indications, donc il fallait que je me débrouille toute seule. J'étais très complexée. Bref, c'était pas évident du tout. Et à 20 ans, j'ai commencé à chercher parce que j'avais été élevée dans une... Je suis hors toute religion, hein, mais j'ai été élevée dans la religion catholique et je trouvais ça... ça me suffisait pas. Ça me suffisait pas. Donc, je commençais à chercher dans d'autres religions, dans d'autres philosophies. Mmh. Et puis, j'y trouvais pas mon compte non plus.
Pourtant, ça a dû susciter tout un tas de questions chez vous. Vous qui étiez... visiblement en quête la religion, le christianisme, et puis ensuite d'autres religions ont dû provoquer encore plus de questionnements chez vous.
Ben, comment vous dire ? J'ai envie de dire, alors bon, c'est compliqué à expliquer parce que ben, je vais être sincère, hein, je vais être naturelle. J'ai toujours eu la foi, c'est-à-dire j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose. Mais je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas comment le décrire, mais je savais que j'étais pas toute seule. Alors ça paraît peut-être un peu fou, hein, mais c'est vrai que ça faisait partie aussi de la psychologie qui était la mienne, c'est-à-dire qu'en étant trop seule, ben je rêvais qu'il y avait des anges gardiens et des êtres qui veillaient sur moi, et ça me rassurait. Mais j'avais vraiment ce sentiment, quand j'étais seule dans ma chambre, d'être guidée. Et c'est un sentiment que j'ai toujours, toujours gardé. Que rien n'arrivait par hasard, c'est-à-dire j'avais pas le moral, et je recevais une lettre d'un ami ou d'une amie, un peu plus tard, hein, quand j'avais 20 ans, parce qu'avant j'en avais pas, hein. J'étais trop timide pour en avoir. Voilà, je m'étais déjà, même à 15 ans, je me disais déjà, rien n'arrive par hasard, il y a toujours un sens. Je sais pas d'où je tiens ça, parce que vraiment, c'est pas mes parents qui m'ont inculqué cette façon de penser. Alors, je vais sauter un petit peu le temps, hein, passer sur certains détails. Je perds mon père à 24 ans. Pour moi, c'est l'effondrement. C'est pas qu'il était très proche de moi, mais il me sécurisait. Ma mère, elle était complètement perdue. Donc, j'ai pris la place de mon père auprès d'elle. Et ça a été difficile parce que, elle était pas du tout autonome. Donc, il a fallu que moi aussi, je me sorte de ma timidité, et pour moi et pour elle. Donc, j'ai essayé de la tirer par tous les moyens pour qu'elle essaie de reconduire, par exemple, puisqu'elle avait pas son père. Elle avait son permis, mais elle n'avait pas conduit. J'ai vraiment essayé de tout faire pour elle, et puis je perdais une énergie folle. Et puis, j'ai un caractère très, très gentil, très accueillant. Donc, quand quelqu'un me parlait, j'écoutais. Quand on est timide, on écoute plus qu'on ne parle. Et les gens venaient vers moi pour me demander des conseils. Bon, je ne sais pas si c'est logique, hein, tout ce que je raconte, parce que je parle au fur et à mesure que les choses reviennent. Hein. Mais je me posais toujours des questions et je cherchais toujours plus loin. J'essayais de conseiller les gens avec mon cœur. Et à 25 ans, il y avait quelque chose quand même qui me passionnait déjà et qui sort vraiment des habitudes, c'est l'accompagnement des personnes en fin de vie, parce qu'il me semblait qu'au seuil de la mort, il y avait des vérités qui apparaissaient et ça m'intéressait.
Quel type de vérité, par exemple, Evelyne ?
Il me semblait que les gens à la porte de la mort étaient en contact avec quelque chose, avec quelque chose que nous, on n'a pas accès. Et je me disais, c'était vraiment en recherche profonde du sens de la vie. Et c'est difficile à expliquer. Je me disais, si je suis à côté de quelqu'un qui est en train de mourir, il va me dire des choses. Il va me dire, je vois ma mère qui vient vers moi. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un près de moi. Et je me suis dit, ça va m'apporter quelque chose. Et surtout, ça va m'apprendre à écouter vraiment. J'étais déjà passionnée, j'ai toujours été passionnée de philosophie à l'école, hein, mais j'étais passionnée par la véritable écoute. Et je me disais, là, même si quelqu'un me sort quelque chose d'aberrant au seuil de la mort, il faudra que je mette mon jugement de côté et que je l'écoute avec tout mon cœur, parce que c'est pas le moment de rentrer dans une discussion ou de le contrer. Ça a été la première étape. Puis après, j'en avais marre de côtoyer des gens qui, comment dire, devaient boire pour rigoler, porter des masques, jouer à des jeux, ils n'étaient pas eux-mêmes, ils n'étaient pas vrais. Je m'ennuyais dans les soirées, je m'ennuyais. J'avais pas l'impression d'avoir ma place. Et puis, il y a eu une série de rencontres, alors je passe aussi vite, hein, parce qu'il y en aurait pour longtemps, mais chaque rencontre a un sens aussi, même la plus banale. Et ces rencontres m'ont amené à commencer un travail personnel, je dirais plus de compréhension de mon histoire. Et c'est difficile à dire, ça, je ne voudrais pas passer pour quelqu'un de... Mais j'ai rencontré une personne qui m'a dit, écoute, si tu veux rencontrer des personnes qui sont en chemin elles aussi, ça serait peut-être bien que tu commences par du rebirth. Ça veut dire renaître en anglais.
Alors, et c'est, nous allons marquer une petite pause si vous le voulez bien, Evelyne.
Oui, d'accord.
Vous allez nous expliquer ensuite comment vous êtes arrivée au rebirth et ce que ça... comment cela vous a impacté, en tout cas si cela vous a impacté et si c'était le début de quelque chose. À tout de suite.
Tout à fait, d'accord.
Europe 1, sans rendez-vous, Mélanie Gomez.
Dans ce rendez-vous, on va s'intéresser à ces bébés nés trop tôt et à leurs parents, bien sûr. On reviendra sur les causes de la prématurité, les conséquences médicales pour ces enfants et puis évidemment, on vous expliquera comment on les prend en charge aujourd'hui, car oui, ces dernières années, des avancées médicales ont permis de gros progrès.
Sans rendez-vous.
À demain, dès 15h sur Europe 1.
À tout à l'heure pour l'éclairage éco avec Région Job. Envie de travailler plus près de chez vous? Trouvez votre futur employeur avec plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
Audible. Raconte-moi une histoire.
Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande
pour
partie
grandir,
de l'ouest.
Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière.
Il
de
marcha
voir
dans
choses,
la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers mots.
Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle.
Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert.
Croix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 22h45, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez nous appeler au 3921 si le cœur vous en dit, si quelque chose dans votre ventre se passe comme ça, que vous avez senti dans la journée qu'il fallait peut-être que ça sorte. Eh bien, n'hésitez pas. Vous composez le 3921 et Florian ou Natacha sont là et attendent vos appels. Pour l'instant, nous sommes avec Evelyne qui nous raconte son chemin, un chemin assez spirituel, un chemin de quête et de découverte. Et nous en étions, Evelyne, au rebirth, en fait,
voilà,
cette expérience.
Voilà.
Alors, expliquez un petit peu succinctement ce que c'est que le rebirth, s'il vous plaît.
Alors, c'est compliqué à expliquer parce que c'est à vivre comme beaucoup de choses que j'ai expérimentées. Il s'agit d'une relaxation profonde accompagnée par une respiration haute et rapide. Et en fait, ça permet de reconnecter à des choses inconscientes à l'intérieur de nous. Alors la séance se passe à peu près, dure à peu près 3 quarts d'heure. Respiration donc sans interruption, haute et rapide. Et en fait, il se passe des choses. Il y a des émotions qui remontent. Bon, ça peut être des rires, ça peut être des larmes, ça peut être des scènes, des ressentis, des choses qu'on a occultées et qui nous apportent un éclairage différent, qui nous font comprendre des choses sur nous-mêmes. Aujourd'hui, je l'utilise, hein, parce que je suis évidemment devenue, je dis évidemment, parce que pour moi, c'est une évidence, je suis devenue thérapeute. Donc j'ai commencé par ça, et on faisait pas ça par hasard. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez... c'est un engagement personnel. Et il y avait, c'était accompagné par une anamnèse, c'est-à-dire qu'on racontait sa vie à des psychothérapeutes et qu'on partait dans un rebirth pour une question bien précise, une interrogation personnelle. Alors, ce que ça m'a apporté, c'est que on faisait ça en groupe, hein, et moi qui étais d'une timidité, je répète, maladive, eh bien, à la fin du week-end, puisque ça se passait le week-end, un week-end par mois, pendant 2 ans. Quand on faisait un tour de piste et que chacun disait son ressenti, et ben là, j'avais plus aucune inhibition et je pouvais parler. Parce que là, je parlais depuis le fond de mon cœur, depuis le fond de mes tripes, et j'avais plus de timidité. Et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est une piste. En fait, peut-être qu'un jour, j'arriverai à parler facilement si je parle avec mon cœur. Si je parle avec ce que je suis vraiment et pas avec l'intellect, parce qu'avec l'intellect, il n'y a rien qui sort. L'intellect, pour moi, il n'est là que pour traduire ce que je ressens. Donc, 2 ans de rebirth, je ne sais pas si c'est difficile à expliquer, mais j'espère que j'ai été claire en résumé. Puis après, j'étais donc à Bordeaux, une grande ville. J'ai essayé plein de choses parce que je ne voulais pas avoir un avis sans avoir testé, sans avoir pratiqué. Donc, tout y est passé. Le Reiki, dont on a parlé il y a quelques années, qui était à la mode. Les soins énergétiques. Bon, j'avais du magnétisme. C'est pas un scoop. Il y a beaucoup de gens qui en ont. Les lettres hébraïques, c'est passionnant aussi. Je m'intéressais à tout. Je voulais tout découvrir. Et puis, parallèlement, je vous ai dit que j'avais perdu mon père très tôt. J'étais toute seule, perdue. Et donc, en quête d'une relation amoureuse qui marche. Bon, là, j'arrive pas à trouver le mot, dépitant. J'y suis jamais arrivée. J'y suis toujours pas arrivée, d'ailleurs. Parce que je pense que je servais déjà de thérapeute à mes compagnons. Et donc, à 30 ans, je tombe sur un garçon qui était vraiment pas bien dans sa tête, qui était à la limite de la psychiatrie. Et il m'a fait très, très peur. Et là, je me suis dit, avec tout ce que j'ai déjà fait sur moi, avec tout ce que j'ai cru percevoir de la spiritualité, pour dire un mot qui veut tout et rien dire, bah, quelque part, j'arrive pas à vivre. J'arrive pas à être heureuse. Donc, c'est peut-être pas suffisant. Il faut peut-être que je m'occupe aussi de la psychologie. Il faut peut-être que je m'intéresse à la psychologie. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas chez moi? Et donc, là, j'ai pris cette route-là. Je suis tombée sur une personne extraordinaire qui m'a écoutée. On a fait une psychothérapie pendant 6 mois. Et elle m'écoutait avec son cœur. Elle m'écoutait d'une façon, quand je me sentais libre de parler. Je me sentais complètement libre de dire tout ce que je ressentais, même des choses parfois qu'on ne s'autorise pas à dire sur ses parents ou sur des gens très proches. Et à la fin de cette psychothérapie, j'ai beaucoup d'émotions en parlant encore, hein, parce que vraiment, ce sont des personnes que je n'oublierai jamais. À la fin de la psychothérapie en question, je lui ai dit « Mais où as-tu fait ta formation ?» Un mois après, je m'inscrivais, j'étais à Bordeaux, ça se passait en Haute-Savoie, rien ne me faisait peur, j'étais secrétaire à l'époque, et j'ai passé pendant 3 ans à faire cette formation, à passer toutes mes vacances, tout l'argent que je gagnais dans cette formation, parce que ça revient très cher, c'est pas reconnu en France. En France, on a pas mal de retard par rapport à toutes ces pratiques parallèles. Sachant que, alors bien sûr, je vais vous dire ce que c'est l'approche centrée sur la personne du psychologue Carl Rogers, américain. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'Amérique. Et cette approche est utilisée dans les pays limitrophes. En Angleterre, il y a des counselors dans les universités, en psychothérapie, etc. C'est dans les facs, enfin dans les, c'est reconnu en Italie, en Suisse. On est en retard sur ces plans-là en France. Donc en France, c'est pas reconnu. Donc il a fallu évidemment que, mais je paye tout ça. Hein. Ça a été beaucoup de déplacements. Il y avait 2 intensifs de 9 jours par an et 1 week-end de 3 jours tous les mois dans tous les coins de France, puisque c'était chaque participant qui organisait les week-ends. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est difficile à expliquer parce que c'est plus de la pratique que de l'enseignement. On nous mettait en condition, en situation, et ça apprend beaucoup de choses sur soi. Alors aujourd'hui, on pourrait parler de l'écoute active ou de la psychologie humaniste. Voilà. À l'époque, ça remonte, j'ai eu mon certificat en 1999. Donc à l'époque, c'était vraiment les débuts en France. Et je peux vous dire, j'ai eu d'autres diplômes, mais quand j'ai reçu celui-là, quand j'ai eu ce certificat, j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie parce que pour moi, c'était vraiment ce que j'étais. J'avais trouvé à l'extérieur ce que je portais en moi depuis toujours à l'intérieur. Cette écoute que je recherchais, cette écoute non jugeante, qui se base sur l'authenticité, c'est-à-dire que je ne peux écouter l'autre que si je suis en vérité avec moi-même. Si je ne suis pas bien avec moi, pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas écouter, je ne suis pas disponible.
Ah oui, ça vous est impossible.
Voilà. Mm-hmm. La deuxième chose, et Rogers le dit en premier, il dit vraiment, il faut que vous soyez disponible pour être disponible à l'autre. Sinon, ce n'est pas la peine. Et en vérité avec vous-même, parce que sinon, ce n'est pas la peine non plus. La deuxième chose, c'est l'empathie. Bon, ben c'est un mot qui commence à être employé aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que je vais ressentir l'autre sans perdre mon identité propre. Hein. Mais je vais percevoir le monde de l'autre, je vais rentrer avec mon cœur. J'utilise beaucoup ce terme parce que c'est vraiment du ressenti, c'est pas de la psychologie. Je vais pas décrypter les gens psychologiquement, c'est pas ça. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment une approche humaine. Et la troisième attitude, c'est le non-jugement. Évidemment, ça va avec le reste. C'est-à-dire que quoi que me dise la personne, je vais d'abord voir ce qu'elle est, sa souffrance, ses expériences passées, pour l'aider, l'accompagner au plus près, sans jamais évidemment me fondre ou me perdre en elle. Voilà, avec juste la distance nécessaire. Pour être neutre et pour l'accompagner avec toute la bienveillance possible. Alors ça, j'en parle très facilement de l'approche centrée sur la personne parce que c'est ma pierre angulaire, c'est mon socle que j'utilise de toute façon tout le temps. Alors inutile de vous dire évidemment que j'ai arrêté le boulot de secrétaire qui ne me plaisait pas, hein, et que j'ai tout lâché et que je suis partie vraiment à la découverte, voulant créer mon activité toute seule.
Mmh. Bon, et comme il nous reste à peu près 4 minutes ensemble.
Oula.
Comment ça se passe? Est-ce que vous avez
Alors, aujourd'hui, je suis thérapeute. J'ai envie de dire, je suis de plus en plus connue parce que justement, et c'est ça le message que je voulais faire passer. Parce que justement, j'ai cette écoute humaine, j'ai cette chaleur, j'ai cette spontanéité, parce que derrière la méthode, c'est moi, c'est ma personnalité qui est là. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de gens actuellement qui ont besoin de retrouver l'espoir, qui ont besoin de se trouver eux, de trouver leur force intérieure, de reprendre leur pouvoir pour eux-mêmes. Et franchement, c'est pas un métier, c'est une vocation. Je me régale à faire ça. Mmh. Et quand quelqu'un sort de mon cabinet en disant, avec une banane jusqu'aux oreilles, en disant « qu'est-ce que je me sens mieux ? Je me sens enfin compris, je me sens enfin écouté », moi, c'est le plus beau de mes cadeaux. Voilà. Mmh. Alors,
vous voyez combien, au-delà, parce que souvent, en fait, je parle pour des générations... des personnes qui aujourd'hui ont entre 70 et 90 ou 100 ans. La notion de psy, aller voir un psy, que ce soit un psychiatre, un psychologue, c'est cette image d'être malade, en fait. Alors que pour les générations qui sont en dessous, je trouve que beaucoup ont compris qu'on avait la chance aujourd'hui d'avoir cette science-là. Et au-delà de cette science, mais déjà c'est énorme de pouvoir profiter des différentes écoles, hein, de la pensée psychanalytique, psychologique, on va dire. Mais en tout cas, c'est déjà génial de pouvoir profiter de cela. Et puis aussi d'avoir derrière le psy ou la psy une personnalité comme vous, comme on vous entend ce soir, Evelyne, qui mettait beaucoup de vous dans ce métier. Et je le souligne parce que je pense que ce soir, vous, peut-être sans vous en apercevoir, vous parlez aussi de l'écoute, au-delà de ce que vous pouvez dire à celles et ceux qui viennent vous voir. Vous dites avec vos mots combien c'est important de savoir écouter et de laisser parler celles et ceux qui sont en face de vous, juste en les laissant parler, vous leur montrez respect, attention, douceur, et combien de personnes ici sur cette libre antenne le disent souvent à la fin de leur intervention, merci parce que je n'avais jamais, il fallait que je le dise, il fallait que quelqu'un m'écoute, et juste cette démarche, cette notion-là, elle est bien évidemment très importante dans le métier que vous faites aujourd'hui, mais qui finalement, j'entends que c'est devenu votre métier et c'est génial, mais c'est devenu aujourd'hui tout de même votre presque vos c'est tout toute votre fondation qui est en marche pour les autres. Et on va prendre encore quelques minutes, si vous voulez bien, parce que j'aimerais quand même vous poser 2-3 questions et que vous me relatiez un peu quelques expériences avec des gens qui sont venus vous voir. On va laisser passer l'info sur Europe 1 et puis on vous retrouve juste après, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite. Europe 1, il est 23h. L'info, le flash, Julien Pierce.
Emmanuel Macron sort le carnet de chèques pour répondre aux inquiétudes du monde du sport. 400 millions d'euros d'aide au total. Un fonds d'urgence a été débloqué pour soutenir dans l'immédiat les clubs et associations paralysés par le confinement. Le chef de l'État a également donné son accord au lancement en 2021 d'un pass sport, une aide ciblée aux familles pour payer notamment les adhésions. Par ailleurs, une centaine de millions d'euros serviront à compenser l'absence de billetterie pour les clubs professionnels. Le retour des spectateurs dans les stades ne se fera pas avant janvier. Autre annonce, la perspective d'une reprise du sport pour les mineurs en club en décembre, si la situation sanitaire le permet. Toujours en fonction de l'évolution de l'épidémie, Emmanuel Macron devrait s'exprimer en milieu de semaine prochaine. Le chef de l'État pourrait annoncer les étapes et les modalités d'un déconfinement progressif, mais ni la date ni le format de cette intervention n'ont encore été calés. Quoi qu'il en soit, des mesures de restriction perdureront après le confinement, a déclaré cet après-midi Jean Castex à l'Assemblée nationale. L'idée, c'est de gérer l'épidémie dans la durée pour éviter le stop and go, c'est-à-dire l'alternance de périodes de confinement et de déconfinement, a ajouté le Premier ministre, questionné par la commission d'enquête de l'Assemblée sur la gestion de la crise du coronavirus. En attendant, la France a officiellement passé la barre des 2 millions de cas de Covid confirmés, mais nos efforts collectifs commencent à porter leurs fruits, a réagi ce soir Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Depuis le pic atteint le 2 novembre, le nombre de cas quotidiens baisse. En revanche, la pression épidémique reste très élevée. 33 500 patients atteints du virus sont ce soir hospitalisés, nouveau record. Laurent Wauquiez, le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, propose aux 8 millions d'habitants de sa région une campagne de tests massive avant Noël. Un effet d'annonce, a réagi Olivier Véran. Le ministre de la Santé regrette que ni le directeur de l'Agence régionale de santé ni le préfet n'ont été informés ni mis au courant. Un ministre n'est pas là pour faire de la polémique, mais plutôt essayer de travailler avec tout le monde, lui a répondu Laurent Wauquiez. On termine avec le foot, la Ligue des Nations et cette victoire ce soir des Bleus face à la Suède, Cyril de la Morinerie.
Oui, l'équipe de France termine très bien l'année puisqu'elle s'impose 4-2 avec un doublé de Giroud qui a marqué son 43e et 44e but avec l'équipe de France. 8e doublé sous le maillot de l'équipe de France pour Giroud. Un but de Benjamin Pavard comme lors de la Coupe du Monde 2018 au deuxième poteau. Très beau but. Et puis un dernier but pour l'équipe de France de Coman du côté des Suédois qui étaient revenus à 3-2, c'est Claesson avec un ballon qui a été dévié par Varane dans ses propres buts au début du match et Claesson qui ont marqué du côté des Suédois. L'équipe de France donc qui a maintenant 4 mois pour se reposer, elle se retrouvera au mois de mars pour les qualifications pour la Coupe du Monde qui se déroulera en 2022 au Qatar et on connaîtra les adversaires de cette équipe de France. Il y aura un groupe de 5 au total. On les connaîtra lors du tirage au sort qui aura lieu le 7 décembre. Victoire de l'équipe de France.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie en direct du Stade de France pour Europe 1. À noter le carton ce soir de l'Espagne. La Roja a écrasé l'Allemagne 6-0. Les Espagnols rejoignent la France dans le tournoi final, le Final Four qui aura lieu en octobre prochain.
Et Julien, rappelez-moi le nom du gardien de l'équipe d'Allemagne déjà, le meilleur gardien du monde. Comment s'appelle-t-il ?
Manuel Neuer
qui suite à la finale avait posté une photo de lui au Vélodrome de Marseille. J'ai une pensée particulière pour lui ce soir.
On lui passera votre pensée. Il est 23h et bientôt 4 minutes sur Europe 1. Très belle soirée à tous. Votre libre antenne se poursuit dans la joie et la bonne humeur avec Olivier Delacroix.
Merci, à tout à l'heure Julien.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1. 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Vous 23h passées de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Chers amis, n'hésitez pas, vous savez qu'à tout moment, vous pouvez me parler et vous pouvez composer le 3921 et vous parlerez ensuite à Florian ou Natacha et nous pourrons peut-être échanger ensemble quelques minutes plus tard. En attendant, nous échangeons avec Evelyne. Evelyne qui a un très joli parcours, un parcours fait de questionnements, sans doute de beaucoup de réponses dans ce questionnement, et puis sans doute encore quelques doutes, sans doute quelques doutes, ça fait quelques répétitions, j'en conviens, mais quelques doutes dans ce questionnement, ce qui nous fait avancer aussi, je le dis souvent, que le doute fait avancer. Et puis l'amour des autres aussi, parce que sans cet amour, cette curiosité des autres, difficile de bien faire ce métier. Quels sont vos... Si je devais vous... Alors je sais que... Bon, je déteste qu'on me demande de faire ça, mais bon, je vais vous le faire quand même. Est-ce que vous avez un souvenir ou deux souvenirs particuliers de personnes que vous avez fait avancer à un moment important de leur vie?
Oui. J'en ai pas mal.
Oui, je me doute. D'ailleurs, vous ne raccrocherez pas ensuite, si vous le voulez bien, Evelyne, parce qu'il y a quelques personnes qui souhaiteraient, Myriam souhaiterait échanger avec vous, Marie aussi souhaiterait échanger avec vous, et Bérangère aussi. Elles nous ont écrit au 739-21, donc... vous verrez avec Florian ou Natacha ensuite comment on peut vous mettre en contact les unes avec les autres, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a un souvenir particulier, quelque chose, quand vous y pensez, ça vous réchauffe le cœur, vous dites, ah si je fais...
chose qui me vient, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques, peut-être 3 ans, une personne qui vient me voir avec une étiquette psychiatrique. Et voilà, ce que j'ai quand même oublié de vous dire, c'est que je suis aussi sophrologue. Donc, pour certains cas, je fais de la sophrologie, il y a toujours de l'écoute. Donc, elle arrive et puis elle était en larmes et elle me disait, mon Dieu, mais j'ai été voir 36 000 personnes, je viens vous voir, mais j'ai pas d'espoir, je suis pas bien du tout, je sais pas comment m'en sortir. Et vu tout ce qu'elle me disait, de ce que les psychiatres, c'est pas contre eux, hein, mais je veux dire, ils sont médecins, ils mettent des étiquettes médicales, c'est normal. Lui avait pronostiqué, je me disais, mon Dieu, mais c'est pas de mon registre, ça, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour elle? Eh bien, elle a fait 3 séances. Faut dire que ce sont des, comment dire, c'est de la thérapie brève, hein. Je garde pas les gens en 10 ans. Hein. Donc, elle fait 3 séances avec moi. Et là, elle se transforme complètement. Elle passe des pleurs à un sourire incroyable. Et au bout de la 3e séance, parce qu'on le sent, hein, en général, je le sens et la personne le sent aussi, que c'est pas la peine de continuer, que c'est bien comme ça, que ça suffit. Elle me dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je me sens bien? Mais qu'est-ce que je suis contente? Mais ça a changé ma vie. Et là, franchement, c'est du bonheur. Voilà. Là, il y a quelques années. Parce que vraiment, quand je l'ai vue arriver, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour elle?
Vous avez dit à Natacha ou à Florian, je suis partie de 20 pour arriver à 100.
Oui.
J'aimerais remonter le moral des troupes.
Oui.
C'est drôle, de comptabiliser comme ça.
Oui, il a très bien transmis, parce que c'est vrai, il y a le mot qui est connu aujourd'hui, qui s'appelle la résilience. Mais j'ai envie de dire, c'est plus pour moi. Parce que franchement, si je n'avais pas ce courage, cette force intérieure, j'avais peut-être pas le choix, hein, il fallait que je m'en sorte. Mais j'avais rien au départ. J'avais pas d'amour, de vrai amour, j'avais pas d'écoute, j'avais rien. Et aujourd'hui, je m'éclate, je suis heureuse dans ce que je fais. C'est merveilleux de faire ce pourquoi on est né. Je crois que c'est le haut de la pyramide de Maslow, c'est quelque chose que tout le monde connaît, hein. C'est vraiment la réalisation de soi. Et quand en plus, ça peut servir à la réalisation des autres, waouh! Voilà quoi. Donc c'est de -20 à +100.
Oui, super. Mais écoutez, je vous souhaite longue route, parce que je sais que vous allez faire du bien sur cette route. Et puis, merci pour ce joli témoignage, ce joli chemin. Hein, c'est toujours très agréable d'entendre ce type d'expérience et cette démarche. Et voilà, j'apprécie particulièrement en plus d'où tout cela est parti, parce que ça me parle beaucoup, votre questionnement dès que vous étiez enfant, ensuite adolescente, les religions, l'espace, le sens que l'on peut donner à cette vie lorsqu'on est tout jeune comme ça, et tout le questionnement que ça fait naître, c'est voilà, c'est l'ébullition.
C'est un message d'espoir, hein. Franchement, c'est pour que les gens sachent qu'au fond d'eux, il y a les réponses, ils ont la réponse. Parfois, il faut chercher de l'aide à l'extérieur, évidemment, mais chacun a ses réponses.
Oui, et chacun a ses réponses, vous avez raison de le souligner, et vous êtes là pour vraiment pour les guider
à atteindre,
à ouvrir toutes ces portes. C'est souvent l'image que je prends lorsque j'ai une personne en face de moi qui doute de vraiment de l'efficacité et vraiment de l'apport dans nos vies qu'est cette science hein, de la psychologie, de l'esprit, hein, de gens qui ont étudié, je parlais de différentes écoles tout à l'heure, mais voilà, elles se sont formées avec différentes personnes, différents maîtres, ou en tout cas, je parle de différentes écoles, mais c'est tellement important et génial de pouvoir bénéficier de tout ce travail qui, en fait, j'utilise toujours cette image, lorsqu'on va chez le psy, la première chose, c'est la confiance. Mais dès qu'on est en confiance, qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir ouvrir une porte, ouvrir une deuxième porte, découvrir ce qu'il y a derrière, alors qu'on passait devant tous les jours et qu'on était incapable seul de l'ouvrir cette porte, parce qu'on ne la voyait pas, la plupart du temps, c'est ça. Ou parce qu'on avait peur, inconsciemment, et on ne voulait pas l'ouvrir. Et finalement, un psy, c'est cette image-là. C'est celui qui vous prend par la main, doucement, et qui vient, vas-y, guide-moi, raconte-moi un petit peu. Et puis, on va marcher là sur le chemin de ta vie. Et puis, hop, voilà, un moment, on s'arrête.
C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça, Olivier. C'est vraiment... j'aurais pas pu le dire mieux.
Écoutez, voilà. Je vous remercie en tout cas mille fois pour votre témoignage et puis je vous souhaite bonne route, ma chère Evelyne.
Merci, c'est réciproque, c'est très gentil, puis je suis contente d'être passée à 10h30, c'est super.
Super, vous pouvez aller dormir maintenant.
Non, je vais écouter les dames qui veulent.
Merci, alors vous ne raccrochez pas, Juliette vient de nous appeler, Bérangère aussi, donc il y a plein de gens qui veulent vous parler, vous voyez.
Merci beaucoup.
À bientôt,
Evelyne. Bonne continuation. Au revoir. Oui, au revoir.